Radio Okapi. À la présentation du journal, Belinda Bossouma.
La France promet plus de 34 millions d'euros d'aide humanitaire en plus de 50 millions d'euros de l'Union européenne. Et pour acheminer cette aide humanitaire, l'Union européenne décide de jeter un pont aérien à destination de Goma. C'est ce qu'a annoncé le président français durant son séjour ce week-end à Kinshasa. 19e jour ce lundi des opérations d'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle. La chef de la mission onusienne signale l'appui logistique important de la MONUSCO, notamment au nord et sud Kivu ainsi qu'en Ituri. Bintou Keïta a clôturé une tournée de 6 jours dans les 3 provinces. Madame, Messieurs, bonjour. Le président français a passé 48 heures à Kinshasa depuis le vendredi 3 mars, vous le savez. Le samedi, après la rencontre à huis clos avec le président de la RDC, les deux chefs d'État se sont adressés à la presse nationale et internationale au Palais de la Nation, évoquant la guerre dans l'Est de la RDC et la situation humanitaire désastreuse qui en découle. Emmanuel Macron a annoncé la décision de son pays d'accorder plus de 34 millions d'euros d'aide humanitaire, s'ajoutant aux 50 millions d'euros de l'Union européenne. L'Union européenne qui a décidé de jeter un pont aérien à destination de Goma dans les jours qui viennent pour acheminer de l'aide humanitaire, notamment aux populations déplacées. Emmanuel Macron, dans ses propos recueillis par Michel Kifindangoy.
Nous avons au cours des derniers jours écouté des acteurs humanitaires congolais internationaux engagés sur le terrain. C'est la première réponse de court terme. Nous avons entendu leur alarme face au dramatique manque de moyens qui se profile sur le terrain et les situations extrêmes qui sont à nouveau vécues par nombre de vos compatriotes. C'est pour cette raison que la France sera le premier État à répondre à l'initiative de l'Union européenne, annoncée ce matin même, de mettre en place un pont aérien humanitaire à destination de Goma. Nous allons débloquer une contribution immédiate de 34 millions d'euros d'aide humanitaire, laquelle s'ajoutera au montant de près de 50 millions annoncés par l'Union européenne. Nous nous tenons également à la disposition de l'Union européenne pour fournir des moyens de transport, civils ou militaires, et pour procéder à leur acheminement. Je veux ici remercier le commissaire européen Lennart Schick d'avoir amorcé cette solidarité européenne qui se concrétisera dans les jours qui viennent par l'acheminement de plusieurs tonnes de matériel humanitaire au profit des populations déplacées dans la région de Goma et dans toutes les régions qui ont été affectées par ces mouvements rebelles et ces groupes terroristes.
Pendant ce temps, la chef de la MONUSCO bouclait une tournée de 6 jours dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri en proie à l'insécurité. Au terme de sa mission, Bintou Keïta a déploré la détérioration de la situation sécuritaire qui continue à faire des morts et des centaines de milliers de déplacés dans l'Est du pays. La chef de la MONUSCO a révélé ce constat à la presse ce week-end. Elle exige le respect de cesser le feu par les différents belligérants. Bernard Danyangi.
Pour Mme Bintou Keïta, plus de 600 000 déplacés supplémentaires depuis mars 2022 dans le petit nord du Nord Kivu et plus d'1 500 000 déplacés en Ituri, alors qu'il y a moins d'accès pour les actions humanitaires, relève d'une situation déplorable.
Notre soutien et nos bons offices se poursuivront pour que les armes cessent de crépiter dans les provinces déjà affectées par une crise humanitaire sans précédent.
La chef de la MONUSCO qui appelle, entre autres, le 1-23 à respecter l'engagement fait vendredi à Luanda sur le cessez-le-feu à partir du 7 mars réitère le soutien de la mission pour la paix dans l'Est de la RDC.
En réponse aux désinformations multiples sur une supposée inaction de la MONUSCO, je tiens à le préciser. Dans leur offensive contre le M23, les FRDC reçoivent le soutien constant de la force de la MONUSCO. Cet appui va de la planification stratégique à la planification opérationnelle.
Rappelons que l'objectif de sa tournée était de constater l'impact de la détérioration de la situation sécuritaire sur les milliers de personnes vulnérables et étudier les voies et moyens de surmonter les défis à la mise en œuvre du mandat de la mission. Cela en prélude de la visite du Conseil de sécurité en RDC prévue du 9 au 12 mars prochain. Goma, Bernardin Yagi, Radio Okapi.
De son côté, la direction du M23 s'est engagée à cesser les hostilités dans toute la région orientale de la RDC à partir de demain mardi 7 mars à 12h locale, première étape du chronogramme proposé depuis le 28 février par la médiation angolaise et conformément à la décision prise lors du mini-sommet sur la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Sommet tenu le 17 février dernier à Addis Abeba en Éthiopie. C'est ce qu'indique un communiqué de la présidence angolaise publié ce week-end. La médiation angolaise appelle les parties concernées au respect de la lettre et de l'esprit des décisions des différents sommets sur le processus de paix et de sécurité dans l'Est de la RDC. En réaction à cette promesse du M23 d'observer un cessez-le-feu dès ce mardi, le député provincial Alexis Baounga pense qu'il s'agit d'une moquerie. Selon cet élu du territoire de Masisi, le M23 a, malgré cette promesse, multiplié des nouvelles attaques contre l'armée congolaise dans le territoire de Masisi hier dimanche, ce qui, estime-t-il, montre leur intention de vouloir conquérir des nouvelles entités à leur compte avant mardi. Il demande donc au gouvernement congolais de donner plus de moyens au FARDC pour en découdre une fois pour toutes avec le M23. Alexis Baounga au micro de Bernard Nyangi.
La population congolaise a besoin de la paix. Mais cette paix-là ne doit pas être aussi moquerie du M23 vis-à-vis du peuple congolais. Le M23 dit qu'il va observer un cessez-le-feu le 7 à midi. Et alors qu'aujourd'hui dimanche, le M23 a attaqué Karuba, le M23 a foncé du côté de Mweso vers Kashuga, du côté de Kirumbu, le M23 continue à occuper des espaces. Ça veut dire qu'il sait que donc vers le 7 à midi, il aura déjà conquis d'autres espaces pour que les récipitifs, les forces de EAC, viennent encore occuper les mêmes espaces qu'ils auront déjà abandonnés au motif qu'ils auront déjà conquis ces espaces-là. Donc pour moi, c'est une moquerie que le M23 tente de faire du gouvernement congolais. Et à ce niveau-là, moi, je serais en train de recommander au gouvernement congolais de mettre assez de moyens, de réorganiser les forces armées de la République démocratique du Congo, de donner assez de moyens à cette armée pour que chaque fois des rébellions, des aventuriers ne viennent pas se moquer de ces jouets des Congolais.
Entre-temps, sur place dans le Masisi, on signale depuis 3 jours le retour encore timide de quelques familles des déplacés de Masisi même et des villages environnants. Ces personnes avaient fui leurs entités suite à l'avancée des rebelles du M23 en direction du chef-lieu du territoire. Les unes avaient pris la direction de Niabiondo, alors que d'autres avaient trouvé refuge dans quelques agglomérations du territoire de Masisi voisin. Selon la société civile de Masisi, ce retour est motivé par les conditions humanitaires précaires dans les milieux de refuge, mais aussi par une certaine accalmie relative observée à Masisi Centre. Cependant, plusieurs écoles de la zone restent fermées et les activités commerciales tournent au ralenti. Télésphore Mitondeke de la société civile de Masisi donne d'autres détails au micro de Denise Lukeso.
Nous pensons que ce retour est d'abord motivé par cette accalmie relative qui s'observe à Masisi Centre, mais aussi il y a ces mauvaises conditions-là humanitaires que traversent les familles déplacées. Certaines familles ne résistent pas même dans les liens de refuge et ce qui les oblige de rentrer parce que en rentrant peut-être à Masisi Centre, ils seront un peu proches de leurs champs pour certains et que ces champs peuvent leur venir à la rescousse en titre de prise en charge familiale et qu'on sort donc ou au fur et à mesure que la population est en train de lire la situation et de localiser surtout les derniers affrontements qui ont eu lieu en territoire, mais également de précisions sur les zones occupées par l'ennemi. Les activités telles que les écoles restent toujours fermées à Masisi Centre. Et il y a aussi les autres activités qui aussi tournent en tout cas au ralenti. C'est comme le petit commerce. Il y a beaucoup de gens qui avaient fermé leur commerce.
En Ituri, les femmes disent non aux actes de violence ainsi qu'aux exactions meurtrières des groupes armés dont elles sont victimes depuis près de 5 ans dans cette province. Elles l'ont fait savoir samedi lors d'un match de football dit pour la cohésion sociale, activité sportive organisée par la section de l'information publique de la MONUSCO à Bunia, une activité qui intervient aussi à l'occasion de ce mois de mars consacré à la sensibilisation et la lutte pour les droits des femmes. Au cours de cette rencontre, elles ont lu différents messages de sensibilisation et d'appel à la paix en Ituri en 3 langues. Soit le français, le lingala et le swahili. À cette occasion, le vice-gouverneur de l'Ituri a appelé les groupes armés qui détiennent encore les armes à écouter le cri de cœur des femmes en déposant les armes. Ézéchiel Mouzalia, reportage.
Solennel et grave a été le ton des femmes de l'Ituri ce samedi au stade Epoville de Bounia où elles ont lancé différents messages de paix et de cohabitation pacifique entre les communautés de la province. Elisabeth Bouvet, coordonnatrice du collectif des femmes de l'Ituri.
Nous avons présenté l'amertume, nous sommes traumatisés par rapport à ce qui se passe, ça ne se termine pas, toujours la recrudescence des hostilités et puis quand il y a peu d'accalmie, ça rebondit.
En français, swahili et en lingala, elles ont entre autres exprimé leur ras-le-bol face au conflit dont elles sont les principales victimes. À tour des rôles, elles ont notamment dit non à la guerre, stop aux destructions des hôpitaux, écoles ou marchés et ont imploré les groupes armés à avoir pitié des femmes. Et c'est ensuite dans une ambiance joyeuse que ces femmes des différentes communautés issues des 5 territoires de la province ont livré un match pour la paix et la cohésion sociale devant le vice-gouverneur militaire. L'occasion pour l'autorité provinciale de mettre en garde les groupes armés qui endeuillent la province. Général Benjamin Alongaboni.
Tous ces gens-là qui s'évertuent à verser le sang des innocents, à tuer les femmes et enfants et les personnes vulnérables de troisième âge, vous ne resterez jamais impunis.
Bounia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Je vous l'ai dit dans les titres, les opérations d'identification et enrôlement des électeurs et à son 19e jour ce lundi, dans la deuxième ère opérationnelle, elles ont bénéficié d'un important appui logistique de la MONUSCO, notamment au nord et sud Kivu et en Ituri. La chef de la mission onusienne a donné cette précision ce week-end aux médias à Goma, alors qu'elle clôturait une tournée de 6 jours dans les 3 provinces. Bintou Keita indique que la MONUSCO a déjà acheminé plus de 130 tonnes de matériel d'enrôlement dans les 3 provinces, une mission s'ajoutant aux 3 axes de son mandat actuel. La chef de la MONUSCO le dit dans ses propos recueillis par Bernardin Nyangui.
Notre mandat renouvelé par le Conseil de sécurité avec le consentement de la République démocratique du Congo en décembre a pour priorité la contribution à la protection des civils, le soutien au PDDRCS, l'appui à la réforme du secteur de la sécurité. En plus de ces 3 axes, la MONUSCO est également mandatée pour apporter un appui logistique dans le cadre du processus électoral. Elle va poursuivre ses bons offices et son soutien aux activités de la CENI pour des élections transparentes, crédibles, inclusives, apaisées, tenues dans les délais constitutionnels. En effet, à la demande de la CENI, déjà plus de 130 tonnes de matériel pour l'enregistrement des électeurs ont été transportées par la MONUSCO. Il faut noter à ce propos que notre soutien concerne les 3 provinces dans lesquelles la mission est encore présente, le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri.
Et puis, nous vous proposons dès ce lundi une série de reportages sur le programme de développement local de 145 territoires sous gestion de la cellule exécution des financements en faveur des États fragiles dans les provinces du Kwango et Kwilu. Dans le Kwango, par exemple, ce programme prévoit la construction de 5 bâtiments administratifs en raison d'un bâtiment par territoire, 53 écoles primaires, 21 centres de santé. Paul Matendo, vous revenez du Kwango. Dites-nous, plus de 2 mois après le démarrage des travaux, que faut-il retenir?
Il faut dire que dans la province du Kwango, la visite s'est limitée dans 2 territoires, à savoir les territoires de Kenge et Popokabaka. À Popokabaka, par exemple, sur l'ensemble des 6 sites inspectés, les travaux ont effectivement démarré. Si pour les bâtiments administratifs et les centres de santé, les travaux sont au niveau de la fondation, les écoles primaires, par contre, ont déjà des murs assez élevés. Même tableau pour les territoires de Kenge. Ici, les travaux de construction des écoles primaires connaissent une nette avancée, ce qui fait la joie de Daniel Bandoukissi, directeur de l'école primaire Midimi en pleine construction.
Je suis tellement ravi puisque c'est ma toute première fois d'avoir le projet comme ça, vient construire une grande école comme Épée Midi. Le nombre d'élèves, c'est 280, 130 filles et 150 garçons.
Tous les bâtiments sont construits en matériaux durables. Les entrepreneurs, selon la cellule d'exécution de financement en faveur des États fragiles, CFF, qui gère ce programme dans cette partie du pays, ont 6 mois pour remettre les livrables au gouvernement. La province du Kwango comprend 5 territoires, dont Fechi, Kaemba, Kasongolunda, Popokabaka et Kenge.
Comprendre la protection de l'environnement dans le bassin du Congo et ses liens avec la biodiversité, la santé, le climat et les systèmes socio-écologiques, c'est le but principal de la 2e conférence internationale sur la biodiversité dans le bassin du Congo, conférence qui s'ouvre ce lundi 6 mars jusqu'au 10 mars à Kisangani. Ce 2e rendez-vous du genre est organisé par le Centre de surveillance de la biodiversité de l'Université de Kisangani et le CEBIOS, Capacité pour la biodiversité et le développement durable. Cet important forum réunit diverses structures nationales et internationales engagées dans la protection de l'environnement. Billy Van Lutumba.
La 2e conférence internationale sur la biodiversité dans le bassin du Congo entend spécifiquement renforcer la prise de conscience et la motivation des autorités politiques congolaises et d'autres nations afin d'accroître leurs efforts pour préserver le bassin du Congo, sa faune et sa flore unique. Elle vise aussi à contribuer à faire face à la pression démographique croissante et au développement économique et leurs effets sur l'utilisation des ressources naturelles renouvelables ainsi qu'aux menaces potentielles sur la santé humaine qui peuvent en découler. Ceci passe par un renforcement du réseau local et international existant des scientifiques, de la société civile et des décideurs politiques. Un renforcement qui doit également concerner les liens au sein de la recherche sur le climat, la biodiversité et la santé. La conférence entend dans la foulée promouvoir la disponibilité publique des données relatives à l'exploitation des ressources naturelles renouvelables auprès des autorités locales. Lors de la première édition en 2014, les conférenciers avaient conclu que les écosystèmes forestiers du bassin du Congo abritent des espèces fauniques, floristiques et halieutiques qui nécessitent protection compte tenu du rôle essentiel dans la conservation de la biodiversité mondiale.
Actualité internationale.
Des chefs d'État et des responsables des différentes nations se sont réunis hier à Doha au Qatar pour l'ouverture de la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, les 33 pays d'Afrique, 12 pays d'Asie, Pacifique et Haïti étaient représentés dans une conférence reportée deux fois pour cause de pandémie de COVID-19. Tous appartiennent à la catégorie des pays les moins avancés, créés il y a 50 ans et supposés leur apporter un soutien international particulier. Plus d'excuses a réclamé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, aux pays les plus riches dont aucun chef d'État ou de gouvernement n'était présent à l'exception du pays hôte. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.